Vous êtes sur RTL.
L'heure du journal de Bénédicte Tassard. Bonjour Bénédicte.
Bonjour et bonjour à tous.
Un couple est recherché après la disparition d'une fillette de 17 mois.
Les proches de la petite Elisabetta suspectaient la fillette a été enlevée vendredi dernier à Winsenheim. Alain Delon va mieux, un cliché de la star hospitalisée publié sur les réseaux sociaux par sa famille.
Et dans 20 minutes, direction Genolier en Suisse. C'est là que se trouve la clinique ultra sécurisée où se repose en ce moment l'acteur. Notre reporter Morad Jabari en revient. Il a pris des nouvelles de la star qui se repose donc depuis son AVC. Et vous comprendrez assez vite pourquoi le monstre du cinéma français ne risque pas d'être dérangé par qui que ce soit.
L'Ocean Viking, plus que nécessaire, troisième sauvetage en trois jours pour le navire humanitaire en Méditerranée. Et puis, une nouvelle saison pour la Ligue 1, comme si rien n'avait changé. Un carton pour le PSG face à Nîmes 3-0 hier.
Et bien justement, après le journal, les portraits de ceux qui ont fait l'année, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
RTL Matin.
On n'a toujours aucune nouvelle de cette petite fille de 17 mois enlevée vendredi dernier dans le Haut-Rhin.
Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie pour retrouver Elisabetta. Cette petite était placée depuis plusieurs mois dans le quartier de Logelbach à Winsenheim. Dimitri Ramelot, bonjour.
Bonjour.
Ses proches ont apparemment voulu la récupérer.
Oui, le rapt a eu lieu vendredi matin à Winsenheim, une commune située à 7 km à l'ouest de Colmar. Elisabetta, 17 mois, est enlevée par un couple qui prend la fuite à bord d'une grosse berline allemande immatriculée en France. Les faits se sont déroulés au centre de l'association Résonance qui vient en aide aux enfants et aux familles en difficulté. La fillette y était placée depuis plusieurs mois. La section de recherche de la gendarmerie du Haut-Rhin soupçonne un couple membre de la famille d'avoir voulu la récupérer. Sur l'appel à témoins, la description accompagnée d'une photo est précise. Elisabetta est de type caucasien, cheveux bruns, noués en deux petites couettes sur le haut du crâne, les yeux marrons vêtus d'un haut blanc avec dentelle, d'une jupe rose pâle et les pieds nus. Figurent également les photos des deux personnes recherchées et susceptibles d'avoir procédé à l'enlèvement. La femme type caucasien, corpulente et porteuse d'un foulard clair et d'une longue robe blanche à fleurs. L'homme est de type caucasien également, brun, porteur d'un short bleu et d'un t-shirt jaune. Un numéro de téléphone a été mis en place par la gendarmerie pour tenter de localiser le couple et l'enfant, le 03 89 21 51 99.
Dimitri Ramelot dans le Haut-Rhin pour RTL. Un collectif de soutien créé à Malensac près de Rochefort en Terre dans le Morbihan pour défendre Vincenzo Vecchi. Cet habitant est en fait un activiste italien. Pardon. Un activiste italien condamné à 13 ans de prison en Italie et recherché depuis le G8 de Gênes en 2001.
On va vous donner un petit verre d'eau, peut-être que ça va aller mieux,
merci.
Bénédicte. En tout cas, je précise qu'il sera présenté à la justice de Rennes après-demain. Ses voisins et amis comptent bien faire pression sur la justice mercredi pour éviter l'extradition.
Et puis, il y a 20 ans, le 12 août 1999, le McDonald's de Millau a été démonté par 300 paysans du Larzac et militants de la Confédération paysanne, dont un certain José Bové, qui invente le combat contre la malbouffe. C'était le début du mouvement altermondialiste. Se félicite encore aujourd'hui José Bové.
RTL Matin 7h03.
Fatigué mais souriant, une photo d'Alain Delon a été publiée sur les réseaux sociaux.
Et c'est son fils Alain Fabien qui affiche le cliché de la star de cinéma dans son fauteuil d'hôpital. Alain Delon, victime d'un AVC et d'une légère hémorragie cérébrale il y a quelques semaines. Mais apparemment, Nicolas Burnan, il veut aujourd'hui rassurer ses fans.
Oui, sur cette photo postée sur l'application Instagram, Alain Delon, les traits marqués, arbore un large sourire. Vêtu d'un polo rouge, on voit la star installée dans un fauteuil médical, celui de la clinique privée en Suisse où le comédien de 83 ans se repose désormais au bord du lac Léman. Merci pour vos nombreux messages qui me vont droit au cœur. Comme vous pouvez le voir, il va de mieux en mieux et il vous embrasse, précise en légende Alain Fabien, le fils du comédien. Depuis l'annonce de son AVC, les proches d'Alain Delon multiplient les messages rassurants sur les réseaux sociaux tout en restant discrets sur les séquelles réelles. Ce week-end, Anouchka, la fille de l'acteur, décrivait son père comme un battant qui pensait déjà à ses futurs projets. Et dans un communiqué, son frère, Anthony, affirmait que les fonctions vitales d'Alain Delon étaient parfaites et son état de santé stabilisé.
Les précisions de Nicolas Burnan.
Et dans 10 minutes, eh bien, on ira à la découverte de cette très discrète clinique des stars, l'établissement de Genolier en Suisse, où Alain Delon se repose en ce moment.
La police des polices, saisie par le parquet de Bobigny pour violence présumée vendredi dernier à Saint-Ouen, en région parisienne, un jeune homme interpellé aurait été frappé au visage par un policier. 3 jours d'arrêt de travail pour ce jeune de 20 ans, dont la garde à vue a été levée samedi après-midi. À l'étranger, Donald Trump encourage les théories les plus folles après le suicide de de Jeffrey Epstein. Le milliardaire s'est suicidé en prison samedi matin. Il était incarcéré depuis quelques semaines pour de multiples agressions sexuelles sur mineurs. Beaucoup sur les réseaux sociaux veulent croire qu'il s'agit d'un meurtre et non d'un suicide. Cet homme invitait apparemment des puissants de ce monde à des parties fines. Et hier, le président américain suggérait que le couple Clinton serait impliqué, ce qui met les États-Unis en émoi. Quant à l'enquête, le ministre de la Justice lui-même se dit effaré par les circonstances de la mort du détenu. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes.
Troisième sauvetage en mer hier pour l'Ocean Viking.
Troisième sauvetage en trois jours au large des eaux libyennes pour le bateau affrété par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières. Hier, ce sont des jeunes Soudanais qui ont été repérés dans un bateau en caoutchouc bleu. 251 rescapés sont désormais à bord du navire humanitaire et se pose maintenant la question de leur débarquement, précise Frédéric Pénard, le directeur des opérations de SOS Méditerranée.
251 personnes, il faut les prendre en charge, il faut les soigner, il faut les nourrir, il faut les rassurer, il faut faire en sorte qu'elles se reposent. C'est un travail à temps plein sur l'Ocean Viking. Le bateau a été préparé dans cette perspective. Et puis évidemment, au-delà des quelques jours de patrouille qu'on continuera à faire pour essayer éventuellement de sauver d'autres personnes si jamais c'était nécessaire, la question d'un port de débarquement va se poser très bientôt. Les autorités maritimes libyennes ne peuvent guère nous indiquer que le port de débarquement de Tripoli, ce qui est impossible parce qu'au vertu du droit maritime, c'est pas un port sûr. Il faut en appeler à la solidarité des autres États du sud de l'Union européenne. Aujourd'hui, bien entendu, ces ports nous sont annoncés comme étant fermés, des menaces sont faites, mais pour autant, on sait aussi que le droit est là et que le droit exige que les États trouvent une solution. Et donc, on espère que c'est quelque chose qui va pouvoir être trouvé maintenant avec l'Ocean Viking d'ici à dans quelques jours.
Frédéric Pénard avec Sinamir. Et pour l'instant, aucune solution en vue. L'Italie n'ouvre toujours pas ses eaux territoriales. Rome est davantage préoccupée par l'avenir du gouvernement à l'agonie. Depuis que Matteo Salvini, le chef de la Ligue, a décrété la fin de la coalition avec l'extrême gauche, le mouvement 5 étoiles doit battre le rappel des troupes ce matin, la Ligue d'extrême droite cet après-midi.
RTL Matin 7h07.
Mais que font les députés pendant la fermeture estivale de l'Assemblée nationale ?
Eh bien, certains sont bien sûr en vacances, mais d'autres retrouvent leur activité professionnelle habituelle, celle qu'ils ont délaissée pour se rendre sur les bancs du Palais Bourbon. Parce qu'on peut être élu de la République et diriger un camping ou élever des vaches, Gauthier de Lombigard.
Oui, lorsque la saison estivale débute, Éric Pogé des Républicains quitte le Palais Bourbon pour s'installer au camping 3 étoiles, l'Éden.
Vache, camping, copain. Et le soir, Wargana,
Chabouna. Cela fait plus de 20 ans que le député des Alpes-Maritimes gère les emplacements, la piscine, le bar-restaurant et les sanitaires avec son épouse et ses 4 salariés.
C'est comme une petite commune. Vous avez 400 à 500 personnes qui vivent sur un espace assez restreint. Il y a des problèmes d'entretien, des problèmes de gestion des poubelles. Je dois un petit peu organiser et administrer tout ça pour que mes clients passent le meilleur séjour possible dans mon camping. Certains suivent un petit peu mon actualité. Ils me disent « Eric, on t'a vu à la télé, on a vu ce que tu as fait sur tel ou tel sujet. » Donc, c'est des échanges qui donnent un petit sel supplémentaire à la fonction de député.
À 750 km de là, Jean-Baptiste Moreau, député La République En Marche de la Creuse, investit chaque été sa ferme pour s'occuper à plein temps de ces vaches limousines.
Je donne à manger à mes vaches, je vais surveiller. Je souhaite garder les pieds ancrés dans les bottes. Pour la crédibilité, je trouve ça important. Et donc, c'était important pour moi de garder mon exploitation.
Mocassins et cravates ajustées seront de retour dès la rentrée, début septembre.
La parole est à monsieur Jean-Baptiste Moreau.
Afin de participer de nouveau au débat depuis le 337, son siège en velours rouge de l'hémicycle.
S'il vous plaît.
Gauthier de Lombugard, et à la rentrée, terminer la traite ou encore le karaoké du soir au camping?
Oui, ça va changer.
Les députés devront notamment s'occuper du projet de loi sur la bioéthique avec la PMA pour toutes et du rapport sur la réorganisation des urgences.
Même sans Neymar, le PSG s'impose déjà en ce début de championnat.
3-0 face à Nîmes hier soir devant leur public du Parc des Princes. Les footballeurs parisiens ont ouvert le compteur avec Mbappé, puis Cavani et Di Maria qui a scellé la marque. Les supporters n'ont pas été tendres avec la superstar Neymar, absent, mais conspué violemment dans les tribunes. Dans les autres rencontres d'hier, Strasbourg et Metz ont fait match nul 1-1. Et Lille, dauphin surprise du PSG lors de la dernière saison, a repris ses bonnes habitudes. 2-1 face à Nantes, une victoire grâce au petit nouveau Victor Osimhen qui a marqué les deux buts d'entrée. Et pourtant, l'entraîneur de Lille, Christophe Galtier, n'est pas encore satisfait de son équipe.
Ce qui nous a manqué, c'est de la constance, de la rigueur et de la détermination. C'est sûrement lié aussi à l'état de forme physique des uns et des autres. Et ça s'est ressenti, on avait des joueurs qui manquaient de rythme, il y a des joueurs qui ont vite fatigué, on a joué pour jouer, on n'a pas joué pour gagner, dans le dernier quart de la première période. Par contre, j'ai aimé aussi après la réaction de mon équipe, de mes joueurs sur les 20 dernières minutes. Mais c'est aussi le lot des premiers matchs de championnat. Avant de venir, je regardais un peu ce qui s'était passé tout au long du week-end. Il n'y avait pas beaucoup de victoires à domicile. Voilà, on a le bonheur de l'emporter, tant mieux.
Christophe Galtier au micro RTL d'Hervé Veug.